Le lendemain, il avait reçu un coup de téléphone d'Aglier.
« Il faut m'excuser, cher ami. Je me trouve confronté à un petit problème. Vous savez que j'exerce pour moi un modeste commerce de livres anciens. Il m'arrive dans la soirée, de Paris, une douzaine de volumes reliés du XVIIIe siècle, d'un certain prestige, que je dois absolument faire remettre d'ici demain à un de mes correspondants de Florence. Je devrais les apporter moi-même, mais j'ai un autre engagement qui me retient ici. J'ai pensé à une solution. Vous devez aller à Bologne. Je vous attends demain au train. 10 minutes avant le départ, je vous remets une toute petite valise, vous la posez dans le filet et vous la laissez à Bologne. Si c'est nécessaire, vous descendez le dernier, de façon à être sûr que personne ne la subtilise. À Florence, mon correspondant monte pendant l'arrêt et la retire. Pour vous, c'est un désagrément, je le sais, mais si vous pouvez me rendre ce service, je vous en serai éternellement gré.
« Volontiers, avait répondu Belbeau. Mais comment fera votre ami à Florence pour savoir où j'ai laissé la valise ?»«
Je suis plus prévoyant que vous et j'ai réservé une place, place 45, voiture 8, jusqu'à Rome. Ainsi, ni à Bologne ni à Florence, nul ne montera pour l'occuper. Vous voyez, en échange de l'embarras que je vous donne, je vous offre la sécurité de voyager assis, sans que vous ayez à camper dans le wagon-restaurant. Je n'ai pas osé prendre aussi votre billet. » Je ne voulais pas que vous pensiez que j'entendais m'acquitter de mes dettes de manière aussi indélicate.
Vraiment un monsieur, avait pensé Belbeau. Il m'enverra une caissette de vin réputé, à boire à sa santé. Hier, j'ai voulu le faire disparaître et à présent, je lui rends même un service. Tant pis, je ne peux pas lui dire non. Le mercredi matin, Belbeau s'était rendu à la gare en avance. Il avait acheté son billet pour Bologne. Et il avait trouvé Aglier à côté de la voiture 8 avec la petite valise. Elle était assez lourde, mais pas encombrante. Belbeau avait installé la mallette au-dessus de la place 45, il s'était assis avec son paquet de journaux. La nouvelle du jour, c'était les funérailles de Berlinguer. Peu après, un monsieur barbu était venu occuper la place à côté de lui. Belbeau eut l'impression de l'avoir déjà vu, avec l'esprit de l'escalier sans doute à la fête dans le Piémont, mais il n'était pas sûr. Au départ, le compartiment était complet. Belbeau lisait le journal, mais le passager à la barbe essayait de lier conversation avec tout le monde. Il avait commencé par des observations sur la chaleur, sur l'inefficacité du système d'air conditionné, sur le fait qu'en juin, on ne sait jamais s'il faut s'habiller en été ou en mi-saison. Il avait fait remarquer que la meilleure tenue, c'était le blazer léger, justement comme celui de Belbeau, et il avait demandé s'il était anglais. Belbeau avait répondu qu'il était anglais, Burberry, et il s'était remis à lire. « Ce sont les meilleurs, avait dit ce monsieur, mais celui-ci est particulièrement beau parce qu'il n'a pas les boutons dorés qui sont trop voyants, et si vous me permettez, il se marie bien avec cette cravate bordeaux. » Belbeau avait remercié et rouvert son journal. Le monsieur continuait à parler avec les autres de la difficulté de marier les cravates aux vestes, et Belbeau lisait. « Je sais, pensait-il, ils me regardent tous comme un mal appris, mais je voyage par le train pour ne pas avoir de rapports humains. J'en ai déjà trop sur la terre ferme. » Alors ce monsieur avait dit « Quelle quantité de journaux vous lisez, vous? Et de toutes les tendances? Vous devez être un juge ou un homme politique ?» Belbeau avait répondu que non, que lui, il travaillait dans une maison d'édition qui publiait des livres de métaphysique arabe. Il l'avait dit en espérant terroriser l'adversaire. L'autre avait été évidemment terrorisé. Puis le contrôleur était arrivé. Il avait demandé comment il se faisait que Belbeau avait un billet pour Bologne et la réservation pour Rome. Belbeau dit qu'il avait changé d'idée à la dernière minute. « C'est beau, avait dit le monsieur avec la barbe, de pouvoir changer ses décisions au moindre vent, sans devoir compter avec son porte-monnaie. Je vous envie. » Belbeau avait souri et il s'était tourné de l'autre côté. « Voilà, se disait-il. À présent, ils me regardent tous comme si j'étais un panier percé, où j'avais dévalisé une banque. » À Bologne, Belbeau s'était levé et se disposait à descendre. « Attention, vous oubliez votre valise, » avait dit son voisin. « Non, un monsieur doit passer la retirer à Florence, » avait dit Belbeau. « Je vous prie même d'y jeter un coup d'œil. »« Ce sera fait, » lui avait dit le monsieur avec la barbe. « Vous pouvez vous fier à moi. » Belbeau était rentré à Milan dans la soirée. Il s'était mis à table chez lui avec 2 boîtes de viande et des crackers. Il avait allumé la télévision. Encore Berlinguer, normal. Si bien que la nouvelle était apparue presque à la sauvette, en fin de programme. Tard, dans la matinée, dans le TE, entre Bologne et Florence, voiture 8, un passager barbu avait émis des soupçons sur un voyageur descendu à Bologne en laissant une mallette dans le filet. C'est vrai qu'il avait dit que quelqu'un la retirait à Florence, mais n'était-ce pas ainsi qu'agissent les terroristes? Et puis, pourquoi avait-il réservé sa place jusqu'à Rome, puisqu'il était descendu à Bologne? Une inquiétude à couper au couteau s'était répandue parmi les cohabitants du compartiment. À un moment donné, le passager avec la barbe avait dit qu'il ne résistait plus à la tension. Mieux vaut commettre une erreur que mourir, et il avait appelé le chef de train. Le chef de train avait fait arrêter le convoi et appelé la police ferroviaire. Je ne sais pas exactement ce qui était arrivé, le train immobile dans la montagne, les passagers qui essaimaient inquiets le long de la voie, les artificiers qui arrivaient. Les experts avaient ouvert la mallette et y avaient trouvé un dispositif d'horloge fixé sur l'heure d'arrivée à Florence, suffisant pour liquider quelques dizaines de personnes. La police n'avait plus réussi à trouver le monsieur avec la barbe. Sans doute avait-il changé de voiture et était-il descendu à Florence parce qu'il ne voulait pas finir dans les journaux. On lui lançait un appel pour qu'il se manifeste. Les autres passagers se rappelaient d'une façon exceptionnellement lucide l'homme qui avait abandonné sa valise, le genre d'individu qui suscitait le soupçon à première vue. Il portait une veste anglaise bleue sans boutons dorés, une cravate bordeaux, c'était un type taciturne, il paraissait vouloir passer inaperçu à tout prix. Mais il lui avait échappé qu'il travaillait pour un journal, pour un éditeur, pour quelque chose qui avait à voir avec, et ici les opinions des témoins divergeaient, la physique, le méthane ou la métempsychose. Mais nul doute que les Arabes étaient dans le coup. Commissariat de police et section de gendarmerie en alarme, des signalements arrivaient, déjà à l'appréciation des enquêteurs. Deux ressortissants libyens arrêtés à Bologne. Le dessinateur de la police avait tenté un portrait robot qui occupait maintenant tout l'écran. Le dessin ne ressemblait pas à Belbo, mais Belbo ressemblait au dessin. Belbo ne pouvait avoir de doute. L'homme à la mallette, c'était lui. Mais la mallette contenait les livres d'Aglier. Il avait appelé Aglier, le téléphone ne répondait pas. Il était déjà tard, il n'avait pas osé ressortir dans les rues, il s'était couché avec un somnifère. Le lendemain matin, il avait encore essayé de trouver Aglier. Silence. Il était descendu acheter les journaux. Par chance, la première page était toujours envahie par les funérailles et la nouvelle du train avec le portrait robot était dans les pages intérieures. Il était remonté en tenant le col de sa veste relevée, puis il s'était aperçu qu'il portait le même blazer. Heureusement, il n'avait pas sa cravate bordeaux. Alors qu'il tentait une fois de plus de reconstituer les faits, il avait reçu un coup de téléphone. Une voix inconnue, étrange, avec un accent vaguement balkanique. Un coup de fil doucereux de quelqu'un qui n'était en rien concerné et parlait par pure bonté d'âme. « Pauvre monsieur Belbo, disait-il, se trouvait ainsi compromis dans une histoire bien désagréable. On ne devrait jamais accepter de faire le messager pour les autres, sans vérifier le contenu des paquets. » C'eût été bien empoisonnant si quelqu'un avait signalé à la police que ce monsieur Belbo était l'inconnu de la place 44. Certes, on aurait pu éviter d'en arriver jusque-là, si seulement Belbo s'était décidé à collaborer, par exemple, s'il avait dit où se trouvait la carte des Templiers. Et comme Milan était devenue une ville brûlante, car tout le monde savait que l'auteur de l'attentat au TE était parti de Milan, il s'avérait plus prudent de transférer toute l'affaire en territoire neutre, disons Paris. Pourquoi ne pas se donner rendez-vous à la librairie Sloane, 3 rue de la Manticore, d'ici une semaine? Mais sans doute Belbo aurait-il eu intérêt à se mettre tout de suite en route avant que quelqu'un ne l'identifiât. Librairie Sloane, 3 rue de la Manticore. À midi, le mercredi 20 juin, il y aurait rencontré un visage connu, ce monsieur à la barbe avec qui il avait si aimablement conversé dans le train. Il lui aurait dit où trouver d'autres amis, et puis, petit à petit, en bonne compagnie, à temps pour le solstice d'été, il aurait enfin raconté ce qu'il savait, et tout se serait terminé sans traumatisme, rue de la Manticore, au numéro 3. Facile à se rappeler.